Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, toujours sur RFI, toujours avec du football et des invités pour en parler. La France éliminée de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, sortie par l'Italie dès le 8e de finale. Une histoire qui a tourné court pour un groupe qui prétendait ramener la Coupe. Le Sénégal a lui aussi été éliminé. Seule la Zambie restera en piste pour représenter l'Afrique. Les Bleus en amical en Bretagne. La France jouera demain contre le Paraguay. Une mise en train et en forme avant d'aller jouer plus sérieusement à Stockholm. Un match comptant pour les éliminatoires de Russie 2018. Les places sont chères. Une mauvaise nouvelle pour l'Atlético, l'interdiction de transfert pour le Mercato est maintenue. Les Colchoneros vont jouer dans un nouveau stade sans pouvoir renouveler leur équipe. Quid de l'avenir de Grisou et de la rumeur d'arrivée de Lacazette? Les dirigeants avaient anticipé, assure la direction madrilène des Colchoneros. Des footballeurs comme Mahrez, Boudbouz ou Brahimi qui se mobilisent pour soutenir des enfants dans leurs études. Ils ont du cœur, ils le montrent, ils le disent. Et Quentin Vasselin, notre stagiaire, était là-bas pour les voir. Nabil Djellit aussi d'ailleurs.
Oui, également.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et vous nous raconterez le moment où les footballeurs montrent qu'ils ont du cœur. Il y a aussi Patrick Juillard de Foot Africa 365. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Eric Chorin.
Bonjour.
Bonjour Eric.
Je suis de passage.
Avec un t-shirt bleu, bleu-gris, ça provoque des débats. Alejandro Valente nous rejoindra tout à l'heure. Pour nous, il est bleu parce qu'il va nous parler des bleus.
Centre de Pezzella, deuxième poteau. Bawa, ça a avancé. Et l'ouverture du score pour l'Italie. Signé Riccardo Orsolini. Erreur de marquage de Fetou Bawassa et l'Italie prend l'avantage. Augustin face à Zaccagno. Donc Emile Augustin en force. Et ça va au fond des filets. L'équipe de France égalise à la 37e minute. Il y a un peu de provocation. Le quatrième but dans la compétition pour Jean-Kévin Augustin. Fabini, le centre. Et le deuxième but italien. Mais quelle erreur. Et c'est Panico qui redonne l'avantage à la squadra. Sur un débordement de Fabini.
On n'est pas dedans. On n'est pas dedans.
Et non, on n'est pas dedans, disent nos confrères d'Eurosport, et on est même dehors. Un gros raté et une grande désillusion pour les Bleuets qui n'avaient qu'un seul objectif pour cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, le titre. Mais les Français viennent donc d'être éliminés de la Coupe du Monde des jeunes internationaux qui se disputent depuis quelques jours en Corée du Sud. Éliminés donc dès le 8e de finale, dès que les choses finalement commençaient à se corser, sortis par l'Italie de but à 1, vous venez de l'entendre. Ils avaient pourtant remporté l'Euro l'année dernière, en plus face à ces Italiens. Alors c'était moins de 19 ans évidemment, ils avaient tous un an de moins. Patrick Juillard, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a deux choses.
Ils se sont vus trop beaux.
Sur le jour du match, ils ont fait un mauvais match. C'est un match sans, comme les cyclistes peuvent avoir un jour sans dans une étape de montagne. Eux, ils ont fait un match sans à tous les étages, que ça soit en attaque où ils ont été inefficaces et en défense où ils ont été absents.
Oui, parce que le but en plus est sur pénalty.
Mais c'est parce qu'il y a une faute. Oui. Et le premier but, il y a eu une erreur quand même de marquage manifeste d'un joueur par ailleurs très prometteur et qui avait fait de très bonnes choses lors des derniers matchs de la saison en Ligue 1 avec Nancy. Ouais. Fetou Mawassa.
Ouais. Le problème, c'est qu'en équipe de France, il joue latéral gauche. Avec Nancy, il a terminé la saison en milieu offensif gauche. Il a perdu peut-être certains repères, le garçon.
Ça, c'est possible. Et ensuite, je pense qu'ils se sont vus trop beaux parce qu'ils ont eu une poule ridiculement faible.
Exactement. Mais on l'avait dit dans Radio Foot hier ou avant-hier, on avait dit c'est difficile de les étalonner parce que justement, il y avait un groupe très faible.
Il n'y avait rien en face. Quand vous jouez le Vietnam, j'ai rien contre le Vietnam.
Mais on aime ou on n'aime pas le Vietnam, de toute façon.
Très beau pays. Oui, si tu veux. La Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Ils sont là parce que c'est l'Océanie. Qu'il faut bien mettre un pays, mais bon, ils n'ont rien à faire là.
Enfin, t'es dur, le football, c'est universel.
D'accord, c'est universel.
Mais c'est le propre de ces compétitions-là, sinon c'est joué à 6 équipes.
Non, politiquement correct.
Et le
Honduras, c'est pareil. L'année dernière.
Non, mais c'est pas une excuse.
Mais je dis que c'est pas une excuse. Ils ont eu un jour sans, mais ils se sont aussi vus trop.
On sort du Giro dès le premier col. C'était le premier col à gravir.
Et c'est même pas le Stelvio en plus.
Ils ont mis pied à terre. Voilà. La vérité, c'est qu'elle est là. C'est qu'on a un problème dans les catégories jeunes françaises. La dernière fois, je commentais un match des U17, là, France-Espagne, c'est toujours la même histoire. On a plus de talent que les autres, on a plus d'individualité. La preuve, c'est ici qu'on vient se servir pour acheter les joueurs, là. Diop, j'ai vu. Enfin, quand on voit la composition d'équipe, elle est impressionnante. Ouais. Mais il n'y a pas de logiciel de jeu français. C'est souvent des exploits individuels.
Ouais, mais en l'occurrence sur cette génération-là, on peut pas vraiment le dire parce que déjà il manquait les meilleurs talents. Il y avait Mbappé qui était pas là,
il y avait Maxime Lopez qui était là l'année dernière dans cette victoire en Euro.
Voilà, donc
c'est moins 19.
Ça c'est quand même une grosse excuse parce que c'est leur meilleur joueur, mais c'est normal qu'ils soient pas là.
Certes.
Ils sont à l'échelon supérieur, c'est logique. Après, quand on regarde la manière, effectivement, ils ont pas été très très bons. Mais quand je vois jouer l'Italie et la manière dont l'Italie a gagné, moi je suis désolé, pour des moins de 20 ans, je trouve ça désastreux. La manière dont ils ont gagné en jouant avec des longs ballons, on a l'impression que c'était une équipe anglaise des années 80. Si l'Italie, oui, si bon, la formation
la France,
italienne,
c'était pas beaucoup mieux.
Non, mais si la formation italienne c'est ça et qu'on joue comme ça pour gagner, moi ça m'intéresse pas. Pour moi, les moins de 20 ans, le titre ne m'intéresse pas. C'est des gamins qui jouent pour gagner une place en professionnel,
qui sont
encore dans une formation, dans une éducation. Je suis plus attristé par le comportement d'Augustin sur son penalty que par la défaite de l'équipe de France.
Justement, vous dites qu'ils jouent pour une place en professionnel. La plupart, de plus en plus, et même dans les équipes africaines, beaucoup sont déjà professionnels. Vous prenez Crépin Diata, l'ailier du Sénégal, il joue déjà en championnat de Norvège, en Ligue 1, dans une équipe professionnelle. Il a un salaire tous les mois.
Donc, c'est déjà
des professionnels. C'était pas le cas, effectivement, il y a 15 ou 20 ans.
C'est pas des joueurs qui sont installés dans leur club, qui jouent un très haut niveau.
Non, mais c'est des joueurs qui peuvent avoir eu une saison un peu fatigante et arriver un peu sur les rotules.
Oui, mais ça fait partie de la formation de s'installer dans un club professionnel, de durer, d'être bon sur la durée et pas sur quelques matchs. Ça fait partie de la formation des jeunes de 18, 19, 20 ans.
Est-ce qu'on donne leur chance d'ailleurs à ces jeunes dans le championnat, par exemple, de France de Ligue 1?
Bah oui. Oui, la France, c'est une chance incroyable à ce niveau-là parce que comme les meilleurs joueurs, entre guillemets, qui sont pas toujours meilleurs puisque de toute façon, on a le marché anglais qui a débarqué. Vous avez des joueurs moyens, on en a vu qui ont fait des allers-retours avec Aston Villa, Newcastle, Thauvin, West Ham. Ces joueurs-là qui sont des joueurs moyens plus partent. Forcément, la formation en France et notamment les jeunes sont tout de suite, rapidement du temps de jeu. Hein. Les exemples sont foison. Hein. On peut citer des clubs pêle-mêle très facilement. Lyon l'a fait. Nice l'a fait.
Nantes.
Angers. Je veux dire, ils jouent quand même assez rapidement en France, ce qui est pas forcément le cas dans d'autres pays où, comme c'est un recrutement de vedettaria ou avec des effectifs
ou
avec une densité extrêmement forte, les jeunes, ils ont moins de chances de percer. Il y a beaucoup de ils viennent même recruter pour leur catégorie U21, pour vous dire quoi. Je veux dire, ils prennent des étrangers même dans leur catégorie U21. Donc en France, en tout cas, ils ont la possibilité d'exprimer leur qualité.
Quentin.
Pour illustrer ce que disait Nabil, aujourd'hui titulaire, il y avait Ludovic Blas qui est très souvent titulaire avec Guingamp. Il y a eu Augustin, qui a très peu de chance au PSG, mais il y avait Saint-Maximin, l'un des meilleurs joueurs de Bastia.
Qui appartient à Monaco.
Voilà. Alminarit qui est titulaire à Nantes. Lucas Touzard qui était le capitaine aujourd'hui, qui a fait la fin de saison titulaire en Europa League, notamment avec l'Olympique Lyonnais. Donc, vraiment, ils ont eu du temps de jeu et ils auraient dû pouvoir s'affirmer face à une équipe qui avait étrié il y a un an. Et Diop en défense centrale.
Non, mais l'équipe de France,
elle a fait une grosse saison à Toulouse. Donc.
Vous dites qu'il manque les meilleurs, mais elle est déjà impressionnante sur le papier.
Bien sûr qu'elle est impressionnante. Mais
et Patrice. Et Alban Lafont, pardon, dans les
voilà. Non, mais ça, là, les joueurs que vous venez de citer. Bon, et alors, il y a beaucoup de déchets dans les catégories jeunes. On peut prendre, par exemple, d'autres équipes. Il y en a un ou deux qui vont finir en haut. Sur les joueurs individuels qu'on a dit, peut-être qu'il y aura 50% qui vont jouer dans des grands clubs, là.
Mmh. Mais comme la plupart des sélections qu'on a eues, ça a toujours été comme ça.
Bruno, la France éliminée, il y a quand même l'Angleterre, elle s'est qualifiée.
Ouais, mais l'Angleterre, c'est une nation qui est. On parle souvent de la formation.
On les cherche, les jeunes.
On parle souvent de la formation à la française, mais la formation anglaise se porte très très bien. Ils ont des équipes de jeunes qui marchent très très bien, que ce soit leur club Manchester City et Chelsea, et leurs équipes de jeunes dans les grands tournois se comportent plutôt bien.
C'est
avec
après
du
que ça
jeu,
se corse.
Avec du jeu, il y a vraiment une éducation.
Ils ont gagné le tournoi de Toulon l'année dernière, par exemple.
Mmh. C'est vraiment une équipe qui est très intéressante. Donc le problème des jeunes anglais,
c'est qu'après ils ont pas de club.
Le problème des joueurs français il y a 10 ans, c'est que voilà, les débouchés dans les grands clubs, c'est très compliqué, ils ne jouent pas.
Et en plus,
on voit Chelsea notamment, Chelsea qui a sans doute la meilleure formation de jeunes. Les jeunes n'existent quasiment
et
pas.
Et en plus, les Anglais, contrairement aux Français. Français ou aux Espagnols, un petit peu maintenant, n'ont pas l'habitude de s'expatrier, n'ont pas l'habitude d'aller chercher du travail à l'étranger. Donc c'est d'autant plus difficile pour eux. Mais ça, effectivement, comme le dit Bruno, ils sont en progrès, eux.
Quentin ? Ils ont leur chance quand même dans un club comme Tottenham aujourd'hui, qui a fini deuxième et qui a beaucoup de jeunes Anglais dans son effectif.
Ouais,
dans
c'est une
exception. Quand même.
C'est très nouveau. Et puis c'est des jeunes qui sont à un niveau largement
c'est la base
au-dessus
de l'équipe d'Angleterre
de moins de 20 ans. C'est des stars d'aujourd'hui.
La Zambie s'est imposée. Elle a d'ailleurs éliminé l'Allemagne.
Au terme d'un match fantastique hier contre l'Allemagne. Ouais. 4-3 après prolongation.
Le Sénégal a été éliminé ce matin.
Alors le Sénégal, honnêtement, sur le match, ils n'avaient rien à espérer. Ils ont eu une occasion à la 7e minute. Ensuite, plus rien. Ils ont subi une domination assez stérile des Mexicains. Le gardien a fait le boulot jusqu'à l'avant-dernière minute. On s'est dit, bon, ils vont aller en prolongation. Et puis, faute de main à la 89e, un centre m'a remis dans l'axe par une faute de main du gardien et le Mexicain qui conclut au deuxième poteau, rideau fermé. Le Sénégal avait plutôt été pas mal au premier tour, mais là, c'était trop pauvre et trop limité pour espérer aller plus loin. Mais heureusement, la Zambie, elle, fait plaisir à voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montent en puissance de match en match. Et ça, c'est assez prometteur.
Voilà. Et ils se retrouveront en quart de finale, et bien avec aussi
contre
le Venezuela.
Contre l'Italie, d'ailleurs, la Zambie.
Contre l'Italie. Il y a aussi le Venezuela, le Portugal, l'Uruguay, les États-Unis qui ont atomisé la Nouvelle-Zélande 6-0. Et donc, on le disait, l'Angleterre qui sera là.
Un score de rugby.
Qui sera là aussi.
ou de tennis.
De tennis aussi.
Oui. Pensons à Eric Mamrut qui peut-être nous écoute du côté de Roland-Garros. C'est pas très loin d'ici.
La Clairefontaine.
Salut les amis, un petit coucou de Clairefontaine.
Tu rentres dans ta petite chambre?
Ouais, j'ai demandé une plus grande, mais ils ont pas voulu. Donc on va mettre plus de buts, une petite récompense nouveau champ. Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais une plus grande, ce serait pas mal, non?
Laisse t'installer.
Allez, tchuss. Laisse-moi tranquille maintenant.
Tu as le cœur à rire, moi.
Éric Chorin, vous qui êtes un habitué des lieux, ça a l'air sympa, Clairefontaine, finalement, des grandes et des petites chambres.
Guibert tous les jours. Ça a l'air sympa, ouais, Clairefontaine.
Antoine Griezmann, le petit chouchou depuis le dernier Euro, tout le monde l'aime, tout le monde le trouve gentil et bien élevé. Eh bien, quand il a fait des déclarations au Point ces derniers jours, il l'a dit, ou il l'aurait dit, hein, parce qu'après, évidemment, il y a les interprétations. Clairefontaine, c'est horrible. T'as le château, il y a un château quand même. T'as le château et c'est tout. On est là-bas tout le temps et on ne sort jamais.
Ben oui, oui.
Y allez, vous sortez.
Nous, on sort, on va aller voir, oui.
Il y a quand même des arbres, des oiseaux et des terrains de foot.
Il y a une très très belle arrivée, c'est très fleuri en ce moment. Là, c'est superbe, les quelques centaines de mètres qui vous séparent de la grille d'entrée jusqu'à l'arrivée au terrain d'entraînement des Bleus. Mais eux, effectivement, ils n'en sortent pas beaucoup. Bah, c'était l'objet de quelques plaisanteries en conférence de presse, en point presse et de raillerie. Les propos d'Antoine Griezmann, bon, il a dit qu'il avait peut-être été maladroit. Il a surtout parlé d'interprétation.
Il est souvent maladroit ces derniers temps. Griezmann, c'est bizarre.
Avec le pied gauche, le droit.
Dans ses déclarations.
Bon, après, on a eu aussi la même question qui a été posée à Kylian Mbappé justement, et qui a dit non, c'est super Clairefontaine et tout. Voilà.
Bah, c'est le genre
différence
parfait,
entre l'ancien et le nouveau, quoi. Ouais. Oui, c'est que la deuxième fois qu'il est là. Donc,
c'est zéro faute de comme Mbappé. Là.
Oui. Vous qui êtes des habitués des réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu cette famille qui a réussi à rentrer et à se balader dans Clairefontaine? Alors c'était ces derniers temps, Nicolas Benita, notre réalisateur, s'est amusé à voir ça, lui qui est un passionné de football, peut-être plus de Clairefontaine. Il y a une famille entière, elle a vu la porte est ouverte, elle est rentrée, ils se sont pris en photo dans les lieux de Clairefontaine. Ils ont joué au baby, le baby des footballeurs, et finalement eux ils ont trouvé que la vie de château était pas mal.
Ils ont déjoué le dispositif de sécurité donc.
Apparemment il y avait un super dispositif, ils ont dû sonner les cloches.
Heureusement que c'était pas une famille de salafistes,
n'est-ce pas ?
Il faudrait qu'ils mettent N'Golo Kanté à la sécurité, il récupérerait tout ça facilement.
Bon, en tout cas, Didier Deschamps, il a dit non, mais c'est vrai qu'on les enferme un peu et que.
Oui, mais
ils sont là pour bosser, ils l'oublient aussi.
Il a quand même choisi là pour cette semaine supplémentaire, puisque nous avons donc trois matchs finalement là pour cette séquence de juin en fin de saison, de les libérer quand même après à l'issue du match face au Paraguay pour avoir deux jours de récupération
en boîte,
le week-end.
Pour monter à la Tour Eiffel.
Ou retrouver la famille, sait-on jamais, pour ceux qui sont plus sages et avant de revenir le lundi à Clairefontaine pour préparer la vraie
signer un contrat.
pour certains aussi.
Voilà. Faire des pubs. Ils ont quand même une belle reproduction de la Coupe du Monde quand même dans ce.
Ah oui, elle est grosse. Oui, on la voit bien sur la pelouse. Et elle tient maintenant. Comme parce qu'avant, elle n'était pas très bien fixée. Mais là, ça y est.
Vous aviez cherché à la déceler.
Et
ça,
certains, oui, bah, ils sont juste appuyés dessus, ça suffisait. Alors là, maintenant, elle a l'air d'être solidement arrimée.
Bon allez, plus sérieusement, les Bleus sont donc là pour bosser. Ils ont 3 matchs en vue et ça retarde un peu leurs vacances. C'est peut-être ça aussi qui leur fait dire que Clairefontaine est horrible. En tout cas, l'équipe de France jouera demain soir en province. Elle joue même pas au Stade de France demain, c'est à Rennes.
Roazhon Park.
Ouais. Ouais. Ils sont
on
chez
va
les Bretons.
Enfin voir du football à Rennes, peut-être cette saison.
Attendons quand même de voir le match demain.
Oui.
On,
bon,
a,
des,
on a vu Firmin Moubele quand même, hein, voilà. C'était bien.
L'adversaire, c'est quand même Paraguay, voilà. Hein, les Paraguayens, on les connaît. En tout cas, une rencontre amicale, eh bien, comme celle qui aura lieu le 13 juin prochain contre l'Angleterre, mais entre les deux, en sandwich un peu, on a un match très sérieux, Eric. Et d'ailleurs, eh bien, Didier Deschamps, il le rappelle à tout le monde, hein, c'est un match de préparation.
C'est quand même une équipe sud-américaine qui a toujours les mêmes valeurs, les mêmes qualités. Après, c'est pas le jeu des Suédois, mais comme on est hors date FIFA, donc pour trouver des adversaires, c'est jamais évident aussi. C'est dans l'optique du match du 9. C'est axé par rapport à ça. Alors, c'est pas qu'il y en a qui vont gagner des points ou en perdre. J'ai les idées assez claires par rapport à ce qui nous attend, mais il y a la possibilité sur un match amical d'avoir 6 changements aussi. Donc, ça laisse une marge de manœuvre plus importante pour faire en sorte. L'objectif, c'est, voilà, préparer au mieux, dans les meilleures conditions, pour être bien présent le 9 en Suède.
Voilà, besoin de se motiver quand même.
On a posé la question de savoir si c'est difficile de motiver les joueurs quand vous êtes allé à Elbasan en Albanie l'an dernier, par exemple. Non, il y a 2 ans, pardon, à 1 an de l'Euro, c'était le dernier match des Bleus avant l'été. Ça aurait été préférable, évidemment, de partir en vacances, la tête un peu reposée, et qu'on ramène une défaite, la première de l'équipe de France, face à l'Albanie à 1 an de la Coupe du Monde. Ça n'augurait rien de bon. Patrice Evra avait poussé un coup de gueule. Et puis, ça fait un moment que les Bleus, finalement, n'ont pas des fins de saison, très intéressantes parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils étaient qualifiés d'office pour l'Euro depuis 2 ans. Compliqué. L'année précédente, la Coupe des Confédérations, avant un an de la Coupe du Monde au Brésil, ça avait été la tournée catastrophe, justement au Brésil, avec des défaites face à l'Uruguay et surtout le Brésil. Ça avait été un peu difficile. Des joueurs pas toujours présents, des joueurs qui avaient perdu leur place pour certains, qu'on n'a pas revu pendant un long moment. Dimitri Payet, il la perd un peu en Albanie.
Aussi.
La Cazette, il la perd avant
au
aussi.
Brésil, oui.
Voilà, donc ça a quand même souvent eu une incidence. Là, l'idée de Didier Deschamps, c'est de dire que évidemment, comme il y a 3 points à prendre en Suède, qui peuvent les rapprocher sérieusement de la Russie, il ne se fait aucun souci sur le niveau de motivation de ses joueurs. Bon, on a le droit de le croire ou non. On peut imaginer qu'effectivement c'est le cas.
Il faut quand même espérer qu'il soit motivé.
Voilà, c'est ce qu'il a l'air de penser.
La place, elle n'est pas encore acquise, hein, la place en Coupe du Monde.
Non.
Non, mais face à la Suède, ils vont être motivés. C'est face au Paraguay et l'Angleterre. Encore que l'Angleterre, il y a toujours une dimension particulière puisque voilà, c'est un pays avec qui on a une proximité. Puis c'est une grande nation de football. Au niveau du palmarès, excusez-moi Bruno, parce que depuis 66 ils n'ont rien gagné.
Ils n'ont qu'une seule Coupe du Monde comme la France.
Voilà, faut quand même le rappeler. Bah, nous on a gagné 2 fois l'Euro. Voilà, il faut quand même le rappeler. Au passage.
Et 2 fois l'Euro.
Mais ils sont sortis de l'Euro. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une période qui est quand même assez glissante pour les joueurs. Patrick, je crois, on faisait tout à l'heure l'allusion. C'est aussi une période.
Il a glissé.
Où certains pourraient avoir des pots de banane au niveau des transferts. C'est une période où les téléphones sonnent beaucoup, où ils sont connectés avec l'extérieur, ils sont à l'écoute de ce qui se passe, ils sont à notre écoute, ils sont à l'écoute des émissions de talk, notamment autour des transferts et tout ça. Et moi, je crois que pour beaucoup, parce que c'est des enjeux d'argent qui sont quand même, notamment, et de carrière, qui sont extrêmement importants, c'est une période qui est toujours délicate dans une saison de footballeur.
Patrick.
Oui, je partage ce que dit Nabil. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que là, pour une fois, le match à enjeu est entre 2 matchs amicaux. Donc,
oui, encore, parce qu'on en a rajouté un avant. Oui. La décision a été prise très tardivement, je crois, en avril. Hein, ils se sont rendus compte que finalement, le match qui servait à préparer le match de qualification, il était après. C'est ballot, donc comme on le voit souvent. Hein,
alors le Paraguay, c'est pas un nom ronflant, c'est pas une équipe qui fait rêver. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui est réputée pour son engagement,
sa rugosité,
comme vous dites, Annie, et absolument. Et donc, c'est un bon adversaire pour voir des des joueurs ne pas tricher.
Et qui avait tenu en échec l'équipe de France avant, à Nice avant le départ à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Donc c'est pas tout à fait innocent, même s'il n'y aura pas tous les joueurs paraguayens, parce qu'eux aussi ne sont pas libres, puisque c'est pas une date.
Est-ce qu'il y aura le bon Roque Santa Cruz? Parce que le Paraguay, c'est Roque Santa Cruz.
Je vous le dirai demain.
Et peut-être à la retraite déjà, Nabil. Ouais. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler des Bleus, parler aussi de l'Atlético et puis de ces footballeurs qui ont du cœur.
Bonjour, c'est
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI, avec Nabil Djellit, Patrick Juillard, Bruno Constant, Quentin Vasselin, Éric Chorin et bientôt Alejandro Valente. On parlait des Bleus, Éric, dites-nous tout sur ce France-Paraguay version 2017 avant Stockholm.
Bah non, mais Didier Deschamps l'a joué, c'est un peu embêtant ce match, parce qu'effectivement c'est un peu, vous savez, il y a un train peut en cacher un autre, là je trouve que c'est vraiment un match peut en cacher un autre, et il ne sert vraiment que de répétition. La seule chose qu'on a cru comprendre, c'est que du coup ça sera pas le lieu des expérimentations à Rennes, là c'est plutôt d'aligner l'équipe type à peu près, hein, en fonction des retours en forme des différents joueurs, pour qu'elle se rôde avant le match face à la Suède. Donc on s'attend pas à vraiment beaucoup de
surprises. Donc il n'y aura pas Mbappé, par exemple. On va vous poser, est-ce que c'est une déception?
Mbappé, on l'attend en rentrant en jeu, en fait.
Donc, d'accord.
Est-ce que c'est une déception? En tout cas, pour lui, vous voulez dire, ou pour...
Non, mais pour le public, puisque c'est un phénomène de foire maintenant pour tout le monde. C'est le...
Et oui, mais des phénomènes de foire, il y en a eu d'autres avant. Et pour l'instant, il y en a un qui a confirmé, c'est Ousmane Dembélé. Donc lui, il a toutes ses chances, sans doute au détriment de Moussa Sissoko. On ne sait pas.
Même s'il pourrait au contraire profiter pour donner du temps de jeu à Moussa Sissoko.
Il pourrait en profiter. Tout dépend de ce qu'il a envie de faire face au match, face à la Suède. Il a l'air de dire qu'il a une assez bonne idée de la question.
Aussi, il faut se rappeler qu'au mois de mars, les deux matchs livrés par l'équipe de France n'ont pas été très concluants sur le niveau du jeu. Au Luxembourg, une victoire poussive et ensuite une défaite contre l'Espagne. Donc là, gagner ce match contre le Paraguay remettrait l'équipe dans une nouvelle dynamique de bons résultats. Donc c'est pas inintéressant.
Avant ce rendez-vous face à la Suède.
Voilà. Quant à Mbappé, de toute façon, il finira par évidemment tous les sauter, puisque de toute façon, il fera comme à Monaco. Il part pas comme titulaire. Et à un moment, on faisait le débat, est-ce qu'il doit jouer à la place de Germain? On a vu ce que ça avait donné. Et évidemment, s'il rentre et il fait la différence rapidement, il va devenir rapidement également titulaire. Après, il y a une logique de groupe, comme l'explique à chaque fois Didier Deschamps. Il y a des gens qui sont déjà là, performants. C'est aussi une manière, de bien gérer et de témoigner la confiance à certains qui étaient déjà là et qui ont fait le boulot par ailleurs.
Et puis d'automatisme, parce qu'on joue pas de la même façon Griezmann avec Giroud que Griezmann avec Mbappé. Donc, ça a besoin de temps aussi.
Et puis contre l'Espagne, il avait pas été d'une efficacité incroyable.
Ouais. Il y avait un contrat sur lui là. Il avait Ramos. Et puis après, il a eu un contrat en finale de la Coupe de la Ligue. Il a Thiago Silva. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Rappelons qu'il a 18 ans.
Bah justement, Kylian Mbappé, on va l'écouter, Eric, parce que vous êtes allé le voir et l'écouter, ce jeune qui nous épate tous, mais surtout, lui, il le sait, il est là pour conquérir une place en pensant, parce qu'ils y pensent tous,
ambitieux,
à l'avenir.
Mais lucide quand même.
Il pense à l'avenir.
Oui, il pense.
Il y a une Coupe du Monde dans un an.
Je vais pas venir ici pour dire au coach, non, laissez-moi sur la touche, j'y suis bien. Après... Je pense que je dois encore apprendre parce que j'ai quasiment aucune expérience au niveau international. Et je pense que de jouer des matchs contre des équipes de prestige comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme le Paraguay aussi, ça va me faire grandir et ça va accélérer ma progression. Il y a certes des places à prendre et je vais me donner à fond pour prendre ces places, mais il ne faut pas non plus dénigrer les autres attaquants qui ont fait du bon travail jusque-là et l'équipe de France marchait bien avant que j'arrive. Donc... Bien sûr que je viens pour prendre des places, mais il faut pas non plus dénigrer les autres attaquants.
Voilà, il est ambitieux, il est modeste et humble aussi. Hein,
copie parfaite en communication.
Mais il n'a pas besoin de prendre de cours, lui, contrairement à beaucoup d'autres. Hein, n'est-ce pas?
C'est peut-être parce qu'il est allé en cours, justement.
ça peut faire aussi une grande différence.
Il a bien dit qu'il a tout à fait conscience qu'il y a des places à prendre. Il a précisé qu'effectivement, la Coupe du Monde, que c'était un rêve de gosse pour lui, comme ils le disent tous. Ceux qui n'ont pas vraiment envie de faire footballeur quand ils étaient gamins, mais en général, ils ont tous eu ça en tête. Il y a un an encore, quand il était il voyait l'Euro, il était supporter des Bleus et il s'imaginait guère quand même y être peut-être aussi vite en équipe de France. Il le dit lui-même, ma progression a été rapide, mais je m'imaginais pas que ça irait aussi vite et que, ben voilà, peut-être dans un an, d'autres disent sûrement dans un an, il y sera en Russie.
Non, mais ce garçon doit s'imposer comme partout ailleurs jusqu'à présent, comme une évidence. C'est-à-dire que à Monaco, plus personne ne conteste le fait qu'il soit titulaire. Il veut que ce soit pareil en équipe de France et il a tout à fait les moyens et surtout l'ambition démesurée pour y arriver, quoi.
Exactement.
Mais il y aura pas de polémique, hein. Si Mbappé, il met 2 buts par match, 5 matchs de suite, non, mais il est titulaire et tout va bien.
Sauf qu'il faut qu'il fasse une bonne saison. Et que faut se souvenir de ce qui s'est passé avec Thierry Henry entre la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, où il avait fait un passage CLG Sport parce qu'il mettait plus un pied devant l'autre. Et il faut pas oublier que ça peut aussi arriver à Mbappé, même si c'est un talent extraordinaire. Il faut qu'il fasse une bonne saison et j'espère qu'il va avoir le bonne intelligence de rester peut-être à Monaco une saison de plus.
C'est un feuilleton, ça. On va en parler.
Dembélé aussi joue une place dans la compétition.
Pour l'instant, il a plutôt la place, peut-être, parce que Sissoko, Didier Deschamps l'a rappelé, parce qu'il a eu aussi des moments pas très faciles, une saison difficile, mais que ça reste l'un des joueurs importants du dernier Euro au sein de cette équipe de France.
Logique de groupe.
mais bon, pour l'instant, Dembélé lui a plutôt ravi la place et il vient de confirmer. Mais en club, après Dimitri Payet, paraît-il, marche très bien, hein, du côté de Clairefontaine à l'entraînement, il pète la forme aussi. Antoine Griezmann, Olivier Giroud, il n'a pas envie de les bouger.
Payet, surtout, bon, on peut discuter de ses performances, mais il a une qualité unique, c'est qu'il est un apport important sur coup de pied arrêté. Donc ça, il ne faut pas le négliger non plus.
Eh bien voilà pour ce qui est donc de ce match de l'équipe de France. Pour nous rappeler peut-être, Éric Chorin, c'est où en est la France par rapport à la qualification à cette Coupe du Monde 2018 ? On est bien parti ou pas trop ?
5 matchs de jouer, 4 de gagner, 1 nul, 13 points. La Suède est à 3 points et effectivement, une victoire par exemple en Suède, chez l'équipe qui est présumée le plus gros adversaire des Bleus pour cette première place de groupe, ça les relègue quand même à 6 points. Ça laisse de la marge alors qu'on est à la moitié en fait de cette séance de qualification. Si les Bleus pouvaient être partis pour se qualifier aussitôt dans la phase de qualification, ça serait quand même assez unique pour les hommes de Didier Deschamps. Alors que on se souvient qu'il y en a quelques-uns qui ont eu des difficultés avant. Je crois qu'ils sont passés assez souvent par les barrages. C'était le cas pour Deschamps avant la Coupe du Monde face à l'Ukraine. Oui, c'était le cas pour les hommes de Raymond Domenech la fameuse main de Titi. Donc là, pour une fois, ça les libérerait évidemment avant l'été.
Eh bien voilà, on verra donc ce que produira la France demain dans ce match amical. Mais Eric, vous restez avec nous parce qu'il y a quelques Bleus qui sont concernés par le sujet que l'on aborde. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Est-ce qu'on vous a manqué ?
Beaucoup.
C'était bien les vacances. Bien les vacances.
Mais même en vacances, on peut écouter Radio Foot International. C'est ça qui est bien.
Voilà. Non, mais pas trop non plus, Alejandro. Alors, un coup dur pour les Colchoneros du côté de l'Espagne et du côté de la Liga. Le tribunal arbitral du sport a confirmé aujourd'hui la sanction prise par la FIFA contre ce club qu'il a interdit en fait d'intervenir sur le marché des transferts pour le mercato d'été après avoir été déjà privé de mercato d'hiver. Mais alors, expliquez-nous, rappelez-nous plus précisément quelle est l'origine de cette interdiction faite de recrutement à l'Atlético Madrid.
Disons que la FIFA, qui avait modifié au cours des dernières années les conditions de recrutement de joueurs mineurs, avait reproché à plusieurs clubs espagnols qui estimaient faire du bon travail, car ils ont des centres de formation des qualités, etc., qu'ils n'avaient pas respecté toutes les clauses, et surtout celles qui doivent veiller à ce que les parents des joueurs mineurs qui vont en Espagne ne déménagent pas pour suivre l'enfant. Donc il faudrait qu'ils puissent déménager pour des raisons propres à eux, et dans beaucoup des cas, ni Barcelone, ni le Real Madrid, ni l'Atlético Madrid n'ont pu prouver que dans certains cas litigieux, cela n'avait pas été respecté. Donc, à l'époque, vous vous rappelez, Barcelone avait dû écoper d'une sanction sur 2 mercatos. Oui. Le Real avait été condamné à la même chose, mais il a obtenu la levée d'un des mercatos, donc il a eu une sanction réduite. Et aujourd'hui, l'Atlético se retrouve dans la même situation que Barcelone, c'est-à-dire 2 mercatos d'interdiction de recrutement.
Et justement, pourquoi le tribunal arbitral, par exemple, n'a pas été aussi clément pour l'Atlético que pour le Real.
Disons que les deux clubs ont adopté des stratégies différentes. Le Real avait aussi moins de cas litigieux que l'Atlético. Et il a obtenu assez rapidement une réduction dans la mesure où ils avaient estimé qu'il y avait que deux cas, je crois, où ils n'avaient pas pu justifier pleinement leur affaire. Prouver. Alors que l'Atlético avait beaucoup plus de cas.
C'est plusieurs dizaines, hein, l'Atlético.
Voilà, il y avait plusieurs dizaines. Donc ils disent, il y a plusieurs cas qu'on n'a pas pu éclaircir et donc il n'y a pas de raison pour lever totalement cette sanction, même si l'amende qui était
a été réduite d'un tiers à peu près.
Réduite.
Mais alors justement, messieurs, maintenant, le problème et le sujet intéressant, c'est évidemment les transferts, parce que cette équipe, elle a construit un nouveau stade. On se souvient, on a beaucoup parlé des derniers matchs à Vicente Calderón. Ils vont jouer dans un nouveau stade. L'entraîneur a dit qu'il restait. Griezmann, lui, on ne sait pas trop. Et là, ça risque d'être un gros problème sur les transferts.
Absolument, ça va être un gros problème parce que déjà Griezmann, on ne sait pas s'il va rester ou pas à l'Atlético.
Parce qu'ils n'ont pas le droit d'acheter, mais ils ont le droit de vendre.
Ils ont le droit de vendre, ils ont aussi le droit de faire revenir des joueurs qu'ils sont prêtés ailleurs, comme Craneviter ou
Zito. Il a le droit de partir. Lui, il a une clause libératoire.
Tout à fait le droit de partir.
Il pourrait s'en aller, en fait.
Enfin, s'il y a une clause, donc si la clause est payée, ils peuvent pas empêcher son départ.
Je crois qu'ils peuvent acheter en prévision du prochain mercato d'hiver.
Ça aussi, Barcelone l'avait déjà fait. D'ailleurs.
Oui, avec Suarez.
Et éventuellement prêter le joueur ailleurs, le temps qu'il puisse jouer sous leur couleur, ou bien faire ce qu'on appelle un peu des préemptions, c'est-à-dire
des préachats. Mais ça bloque évidemment.
Il y en a un qui est bien coachu là dans l'histoire. C'est quand même Alexandre Lacazette, l'attaquant. Je pense que vous allez en parler. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied.
Non, justement, c'est ça.
Je peux vous faire une ouverture et puis vous terminez. Hein.
C'est vrai qu'Alexandre Lacazette, la semaine dernière, on avait l'impression, je crois qu'il l'a lui-même plus ou moins dit dans un communiqué, qu'il allait
pour l'entraîneur. Moi, avec Patrick, on a été plusieurs fois à Lyon. On était dans une loge, on regardait les matchs. On avait la famille de Lacazette à côté. On a discuté un peu avec son entourage. Ce qui était la priorité de Lacazette, parce qu'il était également courtisé par, il y a Dortmund également. Il faudra voir si Aubameyang s'en va ou pas. Après, c'est des histoires de jeux de chaises musicales, mais bref.
Il y a des clubs anglais aussi.
Ouais, il y a des clubs anglais, mais pas forcément top, mais voilà. Peut-être Bruno pourra plus nous en parler. C'était l'idée de travailler avec Diego Simeone. Ouais.
Oui, mais il peut signer à l'Atlético, être prêté dans à un club qui ne soit pas européen, par exemple, pour les 6 premiers mois, ou même rester à l'Atlético.
C'est une année de Coupe du Monde. Une année de Coupe du Monde.
Ça paraît quand même un peu suicidaire.
Oui, il y a deux raisons. Effectivement, c'est l'année Coupe du Monde. Ça, Didier Deschamps a rappelé effectivement que sa porte était ouverte aux joueurs qui avaient envie d'en discuter, même si Kylian Mbappé a dit qu'il doutait qu'il la franchirait, mais qu'il serait tout à fait prêt à en discuter. Quant à Alexandre Lacazette, il a concédé effectivement qu'il avait bien un bon de sortie, lui, du président Jean-Michel Aulas, pour quitter le club, mais qui aurait pas forcément sorti. Donc on a senti dès mardi en point presse qu'il pressentait, peut-être le savait-il déjà, le résultat,
la mauvaise nouvelle,
et qu'il pourrait être amené à rester une saison supplémentaire à Lyon.
Je pense pas qu'il restera, parce qu'il y a quand même 3 mois de mercato et que ça va quand même bouger. C'est un mercato qui est assez chaud. On parle d'Arsenal, je sais pas, Bruno, est-ce que ce serait quoi?
Depuis l'été dernier, il y avait deux clubs qui le suivaient, c'était les deux clubs londonien, Tottenham et Arsenal. Arsenal veut se renforcer, notamment ils ont besoin d'un avant-centre. Le terme, c'est un attaquant de classe mondiale, donc je suis pas sûr que Lacazette fasse partie de ces attaquants-là.
Si tu signes à l'Atlético, t'es un attaquant.
Mais par contre,
Tottenham,
c'est un club qui pourrait lui correspondre. Il était très proche.
Il cherche ou pas Tottenham?
Oui, il cherche bien sûr. D'accord, ils veulent un attaquant pour épauler Harry Kane. Petite précision sur Griezmann. Comme par hasard, aujourd'hui, on apprend que les dirigeants de United mettraient un petit peu le frein sur le transfert Griezmann, que ça serait plus leur priorité, que depuis la blessure de Ibrahimovic, la priorité serait un numéro 9. Alors c'est marrant parce que Ibrahimovic, il est blessé quand même depuis 2 mois quasiment.
Griezmann peut être un numéro 9 quand même.
Ça peut être une manière aussi de mettre la pression sur l'Atlético parce qu'ils étaient prêts à l'acheter.
Disons-nous les choses. Est-ce que vraiment, à 100%, on est persuadé que Manchester United veut Griezmann? Est-ce que c'est typiquement le genre d'attaquant que veut Mourinho? Est-ce que c'est pas plutôt Lukaku, à l'instar d'un Diego Costa ou d'un Drogba, qui correspondrait plus à sa philosophie?
Il y a déjà Ibrahimovic.
Ibrahimovic, il est
Mourinho, out. Mourinho, oui. il a déjà eu Lukaku, il a pas fait confiance, il veut des joueurs confirmés, il veut pas des jeunes qui va.
Mais Lukaku, c'est une machine de guerre, là, quand même.
Oui, mais. C'est une machine de guerre en Angleterre,
mais il est dans un club qui est pas un club de ligue qui joue les Coupes d'Europe.
Mais moi, je vous dis de faire gaffe, quand même.
Il y a autre chose. Est-ce que Griezmann va avoir envie de rester dans un club qui ne pourra pas se renforcer?
Ah bah déjà
à
il
savoir
pas
l'Atlético.
Enfin,
donc,
il a pas,
moi
il
je voulais
gagner
pas
des
pour
trophées.
Ça,
donc,
oui, mais là c'est mal parti pour en gagner avec voilà. L'Atlético. Le Real Madrid et le Barça vont se renforcer grandement en même temps. L'Atlético, s'ils peuvent pas recruter, ils vont être largués au moins 6 mois. Donc ça va être compliqué.
Et rappelons quand même que à Manchester United, ils sont aussi quand même sur James Rodriguez. Alors c'est pas exactement le même profil,
ouais,
mais voilà quoi, c'est pour vous dire. Hein, moi je pense
mais
très
Ramos
sincèrement.
Rodriguez, il est annoncé partout en même temps.
Ouais.
Pour l'instant, tant de mort, il a signé, mais
il est toujours
il a annoncé
je,
tous les clubs
moi,
anglais.
Moi je le vois. Bon, on en reparle, mais je le vois bien déjà à Manchester United. Mais je pense, je suis pas persuadé depuis le début à 100% que et ça m'étonne pas ce que vous dites, que Mourinho veuille réellement Griezmann.
Bon, en tout cas, on a plus de chances de voir Lacazette et Griezmann jouer ensemble en équipe de France qu'en club, si j'ai bien compris.
C'était la chute en fait.
Oui, c'était la chute avant de votre côté. Avant de vous laisser tranquille.
C'était vous qui aviez ouvert le sujet, donc
mais
vous voyez.
Je me souviens d'un autre ancien de l'Atlético, Falcao, dont le passage à Manchester United n'avait pas été franchement une réussite.
Exactement.
Oui, mais les René.
Mais ils n'avaient pas Jardim.
C'est pas pareil, c'est pas le même âge et les mêmes qualités physiques.
Hein. Mais Alejandro, est-ce que du coup, on pourra se dire que les Colchoneros vont, parce qu'ils disent, hein, on a les mêmes ambitions, on avait préparé cette option. Ouais. On sait qu'ils voulaient en vendre pas mal des joueurs, hein, qu'ils voulaient en laisser partir, notamment Adan Turan et
lui,
d'autres joueurs.
Il s'en va, ouais.
Oui. Est-ce que c'est pas dangereux alors que cette équipe rentre dans un nouveau stade, qu'elle va jouer la Ligue des Champions?
Bah, à mon avis, ils vont essayer de vendre le moins possible. Bon, il y a Théo Hernandez, c'est déjà plié.
Il
va partir au Real Madrid. Griezmann, à mon avis, ça risque de leur échapper. En tout mais cas, si, ils ne sont
si,
pas
si,
maîtres.
S'ils perdent Griezmann, ils s'écroulent totalement.
Mais ça va être compliqué dire, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer dans des clubs où
ils ont
déjà
des
prêté des joueurs?
Que vous, Craneviter?
Il y a Craneviter qui est un milieu défensif et il y a Vieto qui est un attaquant mais qui n'est pas du tout comparable à Griezmann. Donc il restera Gamero, Torres qui sont des joueurs intéressants mais qui ne sont pas.
Il y a des bons milieux
quand
même.
Il y a
Saúl
Ñíguez,
c'est quand même pas mal.
Saúl qui était, ça peut avoir des conséquences pour Jean-Michel Seri, puisque Saúl était une alternative à Seri, donc déjà ça pour Barcelone, je veux dire. Hein, donc
ça peut, réchauffe la piste Seri au Barça. En fait.
Bah moi, j'y crois pas trop à Seri au Barça. Je pense que c'est du 50-50 et je suis pas sûr qu'ils le prennent.
Non. Mais surtout Nice pour Seri, juste un petit point qui peut intéresser les auditeurs africains. Nice privilégierait plutôt une vente de Seri au PSG dans l'espoir de récupérer Atem Ben Arfa dans la transaction.
Voilà,
puisque c'est une des grosses volontés du président Rivera.
Moi, je le vois pas au Barça, Seri.
Après,
c'est son rêve, mais je le vois pas.
Après, Barcelone, c'est vrai qu'il l'a beaucoup suivi ces derniers temps, et c'est un joueur qui intéresse. Est-ce que c'est facile de dire non au Barça? Je sais pas.
Non, mais
on suivra à la loupe hein, pendant le mercato.
Ouais,
vous
sûr.
Nous aiderez, Nabil, à suivre tous ces rumeurs et puis séparer le bon grain de l'ivraie. Une dernière nouvelle transmise par l'AFP et que Eric Chorin nous signale, c'est que Mbappé finalement est très incertain demain pour son match puisqu'il a été touché à une cuisse durant l'entraînement et donc n'est pas sûr qu'il soit aligné contre le Paraguay. Et peut-être qu'il le réservera pour la Suède.
Par son transfert et on nous dit qu'il y a une blessure et que Florentino Pérez vient de récupérer avec un jet privé au Bourget.
Rien de méchant, une petite gêne à la cuisse, nous dit Didier Deschamps, qui tenait sa conférence de presse.
C'est peut-être
il y a
la chance de la casette,
secondes.
Du coup.
Peut-être. Allez, on passe au dernier sujet. Une fête de fin d'année, hein, puisque on est en fin de saison. C'était à la Halle Carpentier ces derniers jours dans Paris, des footballeurs et notamment des internationaux africains venus en nombre au secours d'une initiative prise par le rappeur bien connu des auditeurs qui aiment le rap, Kery James. Mais la musique couvrait, on l'entend bien, assez largement quand même le bruit des ballons, des rebonds. Quentin Vasselin, vous y étiez, Nabil aussi, hein, d'ailleurs, vous allez nous raconter un petit peu. C'était du foot en salle pour le bien.
C'est ça. Donc il y avait beaucoup d'ambiance donc pour soutenir l'association ACE de Kery James. Donc malgré la chaleur étouffante, des collégiens n'ont pas hésité à venir dans ce gymnase pour profiter des attractions et surtout du 6e tournoi de foot de cœur. Donc tous les participants de cet événement ont répondu à l'appel de leur ami Hassan Yebda, l'ancien joueur du Mans qui avait à cœur d'aider les jeunes issus des quartiers populaires à avoir un avenir.
Alors on a organisé un tournoi de foot avec plusieurs célébrités, footballeurs professionnels, Riyad Mahrez, Yassine Brahimi, Anthony Letalek, Riyad Boudbouz. On mélange le monde du freestyle, des artistes, des chanteurs, des rappeurs, voilà, qui sont eux aussi issus d'une classe un petit peu défavorisée, pour, au profit de l'association ACE de Kerry James, qui aide les jeunes en difficulté à pouvoir payer leurs études, parce qu'on va essayer avec les bénéfices, de leur reverser une bourse d'études.
L'international algérien fait participer ses amis à ce tournoi et notamment ses anciens coéquipiers en sélection, parmi eux le Montpelliérain Riyad Boudbouz.
En tant qu'homme, en tant que pote, il faut répondre présent à ces événements, il faut donner de la force à toutes ces associations et il ne faut pas oublier d'où on vient. Et aujourd'hui, on essaie de donner le maximum de temps quand on a des vacances pour ce genre d'événement. On a souvent été pointé du doigt, on ne va pas se mentir, les jeunes de banlieue ou de quartier. Et aujourd'hui, il faut montrer à toutes ces personnes-là qu'il y a des bons et des mauvais partout. Et voilà, il faut juste bien chercher, il ne faut pas tous nous caractériser de voyous.
Alors c'est vrai qu'on est en fin de saison, mais c'est intéressant de l'entendre, ouais. Riyad Boudbouz, Nabil, qui dit ne pas oublier d'où on vient. Et finalement, il le dit, on peut être stigmatisé dans,
ouais,
dans
bon,
ces
après,
quartiers.
C'est malheureusement, enfin, la machine à clichés, ouais, le
oui,
système de représentation et de croissance, mais qui
c'est mais un problème global. Mais ce genre de petite réunion, c'est
voilà, c'est un problème global de société. Mais il faut féliciter pour le coup Yebda, Hassan Yebda, l'ancien international algérien, qui est toujours international puisqu'il a pas pris sa retraite, qui joue au Portugal, qui s'est vachement investi. Moi, je l'ai eu avant, qui s'est vachement investi dans cette initiative. Il m'a dit, voilà, lui, c'est un garçon du 94 qui est devenu champion du monde avec la France à 18 ans, qui a ensuite joué pour l'Algérie. Qui a dit, j'ai envie de rendre aux autres. Voilà, il a dit, j'ai envie de rendre aux autres. C'était un peu l'idée. Il y avait effectivement un parterre de stars quand même assez incroyable de niveau mondial. T'as quand même Mahrez qui était là,
Ben Yedder, bon,
qui allait se cacher dans le vestiaire parce que les gamins, lui,
ouais,
lui,
les
là,
gamins
lui,
couraient lui, dessus. Quand
meilleur joueur l'année dernière de l'Angleterre.
Ah, c'était incroyable.
C'était incroyable. Les gamins sont arrivés, ils se sont rués sur lui. Il y avait la sécurité qui pouvait pas les empêcher de rentrer sur le terrain. C'était la folie.
Et d'autres joueurs devaient venir. Et malheureusement, un n'a pas pu venir.
Alors, David Luiz.
David Luiz, qui est le grand ami d'Hassan Yebda, puisqu'ils ont joué ensemble au Benfica, Lisbonne, quand David Luiz est arrivé, du Brésil. Cavani et Di Maria devaient également passer, mais ils n'ont pas pu pour des raisons, personnelles. Yebda, on en a rediscuté ensuite, ensemble. C'est vrai que c'est en faveur de cette association de Kerry James, un rappeur qui a évolué au fil du temps parce qu'il était assez hardcore au début, mais maintenant il est plus dans un message pédagogique.
Très bon message d'ailleurs.
Voilà, pour rassembler les gens. D'ailleurs, il y a une chanson qui est très célèbre, qui est peut-être connue par certains de nos éditeurs africains, qui avait fait un peu le tour du monde, c'est « Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur pour aimer, il n'y a pas de couleur pour pleurer ». Donc c'est voilà des messages fédérateurs et puis surtout ce parterre de gamins heureux là de voir des stars à deux pas d'eux sur un synthétique qui a été acheté par les organisateurs, ça jouait au ballon, il y avait des gestes techniques, bon voilà, il y avait plus qu'à filmer et mettre sur YouTube.
On a d'ailleurs pu le voir pour certains hein, sur YouTube. Bruno, c'est aussi l'occasion, par exemple on pense à Riyad Mahrez qu'on a beaucoup vu l'année dernière à la télé grâce à Leicester, mais ce rapprochement c'est aussi nécessaire pour les joueurs et les enfants qui les admirent.
Ouais,
et
puis surtout parce que Riyad Mahrez est parti un petit peu par la petite porte de la France.
Non, mais
un peu vite.
Anonymement, il n'était pas connu et il a explosé en Angleterre, donc c'est bien de le revoir en France. En plus, bon, on parle de son éventuellement de lui du côté de Monaco.
Non, mais ça c'est bidon ça.
Mais voilà, mais c'est bien et surtout c'est un garçon adorable qui a grandi. Voilà, c'est un joueur de cité. On le voit en ces images quand il est gamin qui s'amuse avec le ballon. C'est formidable d'avoir des joueurs comme ça sur le terrain, c'est de plus en plus rare malheureusement.
Qu'il ait gardé justement ce côté footballeur de rue en devenant pro, c'est ça qui est beau.
J'ai fait une interview avec lui, c'était quand, l'année dernière ou au début de l'année dernière, la phrase, enfin le titre c'était « Je joue comme à la cité ». C'est exactement ce qu'il a dit.
Ça se voit, mais il prenait du plaisir sur le terrain ensemble, il mélangeait les équipes, il y avait des équipes soi-disant pour Boudbouz, des équipes soi-disant pour le Talek, mais finalement ça mixait tout et il prenait juste du plaisir et de se retrouver et de jouer comme ça devant des gosses qui criaient.
Ce qui est sympa aussi en plus, c'est que les clubs de foot sont de plus en plus processés, formatés, oui, donc les joueurs sont
assister aux entraînements
de moins en moins accessibles au public, alors que ça devrait l'être partout, comme dans les clubs moyens ou les petits clubs, mais les grands clubs, ça devient de plus en plus dur, donc c'est bien qu'il y ait ce type d'événement pour que des gamins voient que les footballeurs sont des gens simples, normaux, à qui on peut dire bonjour, ils sont pas d'essence divine, quoi, c'est des êtres humains, et qui peuvent prendre des bonnes initiatives comme ça, donc, il n'y a que du bon à en dire.
Bah justement, on va les entendre ces enfants, Quentin.
J'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux. Parmi eux, Wanday et Sabri en ont pris plein les yeux et ils ont pu profiter de leurs idoles.
On voit des stars, des joueurs pros. Exemple, Brahimi. C'est ici des grands d'Alfortville qui m'ont invité à venir regarder ces grands événements. C'est une bonne chose pour qu'on reste dans le droit chemin. Ça me fait vraiment plaisir. qu'ils ont créé ça. Et merci encore, hein, merci beaucoup.
Voilà, ces petits enfants qui disent merci beaucoup, c'est quand même une vraie. Ils leur sont gré à ces joueurs de descendre un peu à leur niveau et qu'ils les touchent, quoi.
Un détail quand même, ce qui m'a particulièrement touché chez Yebda, qui donc Seine qui a organisé ça, il m'a dit je veux le refaire ici l'année prochaine, c'est-à-dire que c'était Porte d'Ivry, au cœur d'un quartier, il y avait des playgrounds autour. Il ne veut pas le faire ailleurs parce que quand vous êtes capable de rassembler voilà un parterre de tels joueurs. Ou même d'artistes qui pourraient venir. Vous pourriez très bien le faire dans d'autres, voilà, dans d'autres salles. Voilà, vous pouvez essayer de faire. Un...
Non, là,
il a dit non. Il a
fait.
Dit, je veux pas que ça soit ailleurs qu'ici, au milieu d'un quartier.
Ça c'est à la confluence entre Paris et la banlieue. C'est très bien, un endroit très bien choisi. En plus, c'est pas loin de chez moi. Donc,
il y avait même un peu de spectacle. Hein, Quentin, c'était.
Voilà, il y avait des comédiens. Il y avait Sean Garnier, champion du monde de freestyle, qui est venu s'y faire des démonstrations.
Le freestyle.
Le freestyle, donc ce football un petit peu champêtre, dirons-nous. Si je cite Sean Garnier, ce qu'il fait, Riyad Mahrez et ses amis ne peuvent pas le refaire.
Ouais. Des acrobaties avec un ballon, hein, tout simplement.
Et pour terminer, ça s'est fini sur une chanson de Kerry James, qui est très connu dans les quartiers et ailleurs, dont le titre est 9-4, c'est le Barça.
Et ben...
surprise, Nabil, pour vous, non, là?
Bien sûr.
On vous a surpris, là.
Ah,
surpris, on y arrive. Hein.
Les grands esprits sont en train de voir dans le bureau, il y a le réfé qui danse 9-4, c'est le Barça.
Et qui ne danserait pas avec une telle musique?
Ça pourrait lui plaire, mais c'est surtout un hommage, finalement, à cette région de Paris et à tous ces gens, à qui ils ont offert donc des bourses d'études.
Donc, ça sera pour que les enfants aient des bourses d'études après leur scolarité au collège.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé et aidé à ce Radio Foot International. Demain, dans le Café des Sports, nous ferons une émission spéciale, chers auditeurs, consacrée uniquement à la finale de la Ligue des Champions, puisque samedi, Juventus de Turin et Real Madrid se retrouvent, la confrontation de l'année à Cardiff. Merci à Nicolas Benita qui était à la réalisation et à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. À demain.
Bonjour, c'est